pinaillé, mais ça valait le coup. Hein.
Oui. Ah. Ben justement.
Mais c'était la volonté en fait. Hein, on voulait pas faire un petit truc.
Comme ça.
Non, je voulais dire justement pour celui qui aime Léo mais qui connaît pas vraiment tout ce qu'il a fait, parce qu'il y a tellement de choses qu'au départ les gens ne sont pas forcés de tout connaître. Pour celui qui aime la photo et pour celui qui aime tout ce qui est esthétique et très beau, il faut dire que moi ce bouquin, je crois que j'ai à peu près tous les bouquins qui racontent Léo, qui parlent de lui avec des photos, etc. Bon, moi pour moi ce bouquin c'est vraiment le plus beau que j'ai eu, quoi. Parce qu'il faut voir, bon, esthétiquement c'est très bien fait. Toutes les photos sont en couleur et elles sont très très belles. Et
oui,
très
mais je grandes. Crois que aussi toi tu es très sensibilisé au support, tu es collectionneur toi-même. Ah
oui,
donc,
oui mais si tu veux, en même temps, il bon, y a le côté collectionneur, mais il y a aussi le côté de l'artiste et de Léo qui en plus n'avait pas une gueule ordinaire, parce que quand tu te trouvais devant Léo, c'était quand même, c'était pas, bon, je vais pas dire de nom, mais bon, c'était quand même un sacré, il avait quand même une sacrée gueule. Alors, ajouter à ça des photos qui sont très très belles, et qui ont été très très bien utilisés.
Non, mais je crois que bon, de toute façon, Léo avait toujours une série de photographes bon, qu'il a toujours utilisé, avec qui il a vécu en amitié tout le temps. C'est bon, c'est Patrick Ullmann, c'est Hubert Contreclasse, hein.
Ah oui.
Bon, Alain Marouani, c'est la base. Bon, bon, c'est la base et c'est vrai que ce sont des gens qui l'aimaient beaucoup. Et je crois que ça transparaît d'après les photos. Toutes les photos d'Hubert Contreclasse, il y a un regard très particulier et qui permet d'identifier. Quand on voit une photo, on dit ça, c'est Hubert qui l'a fait.
C'est clair. Ouais.
Et une manne, c'est pareil. Je sais pas, il y a un amour qui transparaît. Mais je crois que tous les gens qui ont connu Léo Ferré sont forcément tombés amoureux de lui.
Voilà, et sont arrivés à restituer à travers les clichés les émotions qu'ils avaient au fond du cœur.
Tout à fait.
Alain, on va faire une pause musicale. Je vous ai demandé de choisir un morceau. Je crois que vous avez choisi le morceau qu'il fallait pour ce 21 mars. On l'écoute.
J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver, pendant que le vulgaire était tout emmouflé. Je soufflais sur mes mains à son cul, à son nez. Vlatipak, ses bourgeons sortaient manger le nez. Vlatipak, ses bourgeons sortaient manger le nez. Le printemps, ça s'invente et ça se fout en tôle. Le printemps, c'est ma mine avec ses airs de chien qui vient tout ébahi me montrer tout son bien. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Et oui, c'est ça, monsieur, le printemps des poètes. Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons. Un quart d'été, un quart d'automne et des chansons. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. On va faire des pique-niques du côté des ballots. On va se mettre au vert en croyant aux histoires. Et l'on se sent mourir au bord d'une guitare. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Ce qu'il faut de désir aux heures de l'ennui, et ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses, ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. jamais ne vient l'avril dans le fond de mon cœur. Cet éternel hiver qui bat comme une caisse, qu'on clouerait sans répit depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs, a décidé.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous écoutons actuellement, donc on le répète, une émission enregistrée qui nous a été prêtée par Divergence FM, une radio de Montpellier. Quelques petites nouvelles pour ce qui va se passer un petit peu cette semaine, puisque vous allez retrouver évidemment vos émissions favorites à partir de demain matin 9h. En particulier mercredi soir, l'émission Trafic qui n'aura pas lieu en direct au studio, mais à partir des studios Campus, avec lesquels nous allons maintenant collaborer une fois. On se retrouve dans une petite demi-heure pour votre petite annonce. Et voilà, toujours un petit problème technique un petit peu récurrent, mais ça va passer parce que les techniciens sont affûtés pour faire, pour réparer un petit peu tout ça. Voilà, tout le monde s'affaire dans la cabine, tout va bien. Radio Libertaire 89.4.
Dans ces 24 heures sur Divergence FM consacrées à Léo Ferré, après cet enregistrement bien tout à fait rare que nous a proposé André, on va écouter dans l'ordre Préface, un morceau choisi par Thierry, et puis un morceau également choisi par Emmanuel, c'est Marie Zibille. Léo nous parlait d'Apollinaire, et bien justement Marie Zibille c'est d'Apollinaire, et c'est pour François, donc Emmanuel, François, non. Emmanuel pour François, son père. Voilà, donc tout d'abord Préface, après Marie Zibille, et puis dans 7-8 minutes nous écouterons en direct Élodie Margot, 17 ans, qui interprétera Joli Môme.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-bois qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un
sogne. Elle allait et venait le soir.
Des beaux-arts, merci pour cette interprétation des poètes, chargée de beaucoup d'émotions, j'avoue. Alors, j'ai l'impression que vous aviez beaucoup plus d'entrain à chanter qu'à répondre aux questions que je vais vous poser, n'est-ce pas, mesdames et messieurs ? Je vais commencer par un monsieur, tiens, un monsieur qui a eu... Voilà. Là, le micro marche bien, donc je reprends en disant que j'ai l'impression que vous aviez beaucoup plus d'entrée à chanter qu'à répondre à mes questions. On est nombreux, je sais pas, vous êtes combien la chorale de...
Une quinzaine environ.
Une quinzaine, donc vous avez répété ce morceau longtemps ?
Quatre ou cinq fois, je pense.
Cinq fois. Comment s'est effectué le choix sur les poètes ?
Alors, le choix, c'est Personnellement, c'est pas moi qui l'ai fait.
Mais c'est un petit peu Martine Chapelle qui est un petit peu à l'origine de cette chorale. Bon, moi je la dirige effectivement. Je m'appelle Myriel Grobard, donc voilà, je me présente. Et je la dirige donc tous les mercredis. On s'appelle la chorale Viticole des Beaux-Arts. Petite précision, parce que ça a un côté.
Viticole, oui, c'est incongru.
Et donc, bon, on a choisi parce que bon, on aime la poésie, tout simplement. Et puis que Léo Ferré nous nourrit de poésie. Et de musique, quoi. Et puis la mélodie est magnifique. On a fait un arrangement assez très simple parce que bon, c'est pas facile de faire un arrangement pour une chorale qui a que 2 ans comme ça, assez compliqué. Mais c'est vrai que Thomas Fonvieille, qu'on a invité ce soir à la guitare, nous a concocté un accompagnement simple et très joli, quoi. Sur lequel on s'est régalé de chanter ce texte là et cette mélodie.
Myriel, vous êtes entourée de chanteurs et de chanteuses. Vous êtes aussi entourée de photos de Léo Ferré. Parmi toutes ces photos, est-ce qu'il y en a une dont vous auriez envie de nous parler plus particulièrement, une qui vous aurait charmé?
Ben là, devant moi, je vois celle du un petit peu comme un cri, quoi, sur le piano. Là, avec, on voit qu'il est tellement engagé, cet homme-là. Quand il chante et quand il joue, bon, c'est ça qui touche énormément, quoi. Il y a un engagement, on va dire, à 200-3000%, si on peut calculer comme ça. Et puis, c'est ça qui est très fort, quoi. C'est un engagement total de tout, quoi. De son corps, de son âme, de son esprit. Et puis là, cette photo, elle reflète ça, quoi. Et on dirait qu'il y a, on voit cet investissement dans ce qu'il fait, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il chante.
Vous aviez eu l'occasion de le voir sur scène, Léo Ferré?
Malheureusement, non. J'ai une amie avec qui j'ai beaucoup travaillé qui avait fait le spectacle L'Opéra des Pauvres et qui avait eu la chance de le rencontrer et d'être de rencontrer cet homme-là. Je n'ai jamais eu la chance de le voir, non, malheureusement. C'est pas ma génération encore.
On va faire tourner le micro. Qui aurait envie de me parler? Qui aurait peut-être vu Léo Ferré sur scène? Martine. Allez, Martine.
J'ai vu Léo Ferré au Zénith en 89, c'est ça? Oui. Rappelle-moi. Et j'avais reçu un choc très fort, une grande émotion, parce qu'il était tout seul sur scène avec son piano. Et j'avais été très très émue, jusqu'aux larmes, quand j'avais vu cet homme quand même... personnage hors du commun. Et c'est pour ça que quand vous avez prévu de faire ces 24 heures sur Léo Ferré, moi j'ai eu envie de chercher quelque chose qui soit en même temps une mélodie et qui soit pas trop triste, pas trop. Enfin, quelque chose qui soit quand même émouvant pour tout le monde, mais qui y ait quand même de l'espoir dans cette chanson. C'est pour ça qu'il y a l'espoir.
On va faire un petit changement de câble de micro. Là, c'est vraiment du direct parce que j'ai un gros problème avec le câble du micro. Donc, vous voyez, c'est du direct. Un petit changement de micro. Donc, on va passer sur le micro statique. Je dis ça en régie. Et je vais me diriger. Voilà, je vais me diriger vers Mathieu. Mathieu, bah oui, Mathieu, vous pouviez pas couper à. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette chorale chanter un peu à l'unisson le texte de votre père, les poètes? Rapprochez-vous parce que mon micro est un peu court.
Mais bien sûr que ça m'a fait très plaisir, évidemment. C'est assez rare pour moi, en tout cas, de voir des chorales qui chantent des choses de mon père. Donc ça me fait autant plus plaisir que. C'est pour moi une occasion rare qui m'est donnée, donc j'espère que peut-être que c'était pas la première fois et qu'ils continueront et que ça leur fait plaisir de le faire, et c'est bien, voilà.
Je crois que c'était la première fois, et comme le disait tout à l'heure Myriel, c'est vraiment une chanson qui a été répétée pour ces 24 heures sur Léo Ferré. Mais à mon avis, après avoir goûté à cette ambiance, je sais pas, peut-être qu'elles auront envie de continuer, on l'espère en tout cas.
C'est eux qui peuvent décider, hein. Il faut qu'ils chantent ce qui leur fait plaisir, et puis c'est tout, c'est ce qui compte.
On va passer le micro en studio à Cyril, qui va continuer à nous présenter ses 24 heures sur Léo. Là, je crois qu'on va partir, Cyril, avec un module, c'est ça?
Non, d'abord une interview de Alain Fournier, une interview, je crois que tu as reçue avec André, Alain Fournier, pour parler d'un livre, Les mémoires graphiques.
Voilà, un livre merveilleux, Les Mémoires graphiques, un livre qu'on a eu l'occasion de découvrir il y a peu. Donc Alain Fournier va nous parler de ce livre. Et puis on peut aussi tout de suite préciser que ce livre, bon, c'est, on ne fait pas de la vente là dans ces 24 heures, mais on le précise quand
ah,
même.
Ah si, si.
On peut préciser que ce livre, les gens peuvent venir se le procurer au 24 Boulevard Pasteur si d'aventure cette interview leur donne envie de le découvrir. Dans ces 24 heures sur Léo Ferré, André, nous avons le plaisir de recevoir Alain Fournier. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Nous sommes contents, André, de recevoir Alain Fournier parce que c'est beaucoup grâce à lui que tu nous as fait la petite chronique sur la chanteuse morte.
Eh oui, parce que je connaissais l'histoire, donc, parce que je l'avais lue, parce que je la connaissais, quoi. Mais il manquait l'élément le plus important pour pouvoir aboutir, c'était la chanson chantée par Léo.
Et l'illustrait donc, et illustrait tes propos.
Voilà, et illustrait les propos, c'est très important. Et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'à monsieur Alain Fournier,
qui est là aujourd'hui. Qui est avec nous, Alain Fournier, qui vient de sortir, enfin il y a quelques mois de ça, un livre tout à fait remarquable par son contenu, magnifique aussi par son approche esthétique, par la manière avec laquelle sont agencées les pages. Ça s'appelle Une mémoire graphique, donc Léo Ferré, Une mémoire graphique. Ce livre, Alain Fournier, vous l'avez écrit, vous êtes donc co-auteur de ce livre avec une personne qui a déjà écrit sur Léo Ferré, c'est Jacques Lagnier.
Oui, tout à fait. Jacques Lagnani, bon, c'est vraiment la mémoire de Léo, en fait. On ne peut pas dire ça. Je crois qu'on peut le dire. Il connaît tout. Je ne sais pas comment il a pu mémoriser, en fait, tout ça. Et c'est absolument prodigieux. Donc, on a effectivement envisagé de faire un livre sur Léo. On voulait sortir un peu des sentiers battus et on voulait... en fait, rendre hommage à Léo Ferré, c'était un peu ce côté-là qui nous a poussé, faire quelque chose d'original et lui rendre hommage. Alors, on a cherché et nous avons trouvé que faire une discographie, mais pas la discographie traditionnelle, comme on peut dire, et je crois d'ailleurs que la presse spécialisée nous a gâtés, elle nous a dit que c'était une discographie intelligente. Alors, ma foi, on était assez ravis et c'est ce qu'on a voulu faire. À savoir qu'on a répertorié tous les disques de Léo Ferré et que l'on a commenté un peu la pochette.
Alors ça a dû être, on l'imagine quand on connaît l'œuvre de Léo Ferré, ça a dû être un travail assez important, un travail. Donc vous avez commencé il y a 2 ans, hein, c'était au printemps 99.
Tout à fait.
Et vous avez mis pratiquement 1 an pour arriver à sortir ce livre.
Bon, oui, c'est-à-dire qu'on a, je crois qu'on a eu quand même beaucoup de chance. Bon, mis à part le fait qu'il a fallu rédiger, j'ai trouvé à Périgueux un éditeur. Qui a un petit éditeur en fait qui a osé.
C'est Laloz.
Voilà, les éditions de Laloz à Périgueux. Donc il a osé faire ce livre. Moi j'étais arrivé avec mon manuscrit. J'avais fait des photocopies, des pochettes de disques en noir et blanc. Et nous, humblement, on demandait la reproduction noir et blanc de chaque pochette. Bon. Mais l'éditeur a dit non, on va les faire en couleur. Et puis ensuite, il a dit, mais on va faire tous les rhabillages successifs également, ce qui fait qu'on se retrouve à environ 200 reproductions en quadrichromie, quelque chose de faramineux. Et puis en plus, on a soigné la reproduction, on a soigné le papier, on a choisi en fait, les caractères, en fait, on a... C'est quasiment une œuvre collective.
Voilà,
en fait.
On sent en tout cas qu'il y a une vraie réflexion. On sent aussi, et ça, c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, on sent aussi que ça n'a pas été un coup médiatique, mais c'est plutôt un coup de cœur qui a été à la genèse de ce projet. On en parlera après de Léo Ferré, vous l'avez connu, donc c'est quelqu'un que vous connaissiez, en tout cas quelqu'un qui vous a énormément marqué. Dans cette succession de pochettes, André, on peut se dire, toi qui es aussi responsable d'un site internet qui répertorie des pochettes de disques de beaucoup de chanteurs, on peut dire que Léo Ferré a bien souvent un peu sorti une pochette contact. Et puis, comme il a assez souvent changé de maison d'édition, il a dû ressortir la pochette un tout petit peu modifiée pour l'autre maison d'édition et tout. Donc, ça n'a pas été simple, j'imagine.
Oui, c'était ça, mais en même temps, c'était pas ça. Il y avait autre chose aussi qui se passait, c'est que à l'époque, c'est arrivé avec plein d'artistes, y compris les Beatles et d'autres. À l'époque, lorsqu'un disque sortait, le marchand, on l'appellera comme ça, était à l'affût de voir si les ventes démarraient bien. Et si on s'apercevait au bout de quelques semaines, au bout d'un mois, que les ventes ne démarraient pas comme on voudrait, on changeait la pochette. Et le disque restait le même, avec une pochette et une photo différente, pour voir si avec cette nouvelle pochette, cette nouvelle photo, on pourrait pas vendre davantage. Et ça se faisait, et c'est ce qui explique que sur les disques qui n'ont pas toujours très très bien marché, on peut voir une, deux, trois pochettes pour le même disque.
Mais le principe vaut également pour les éditeurs qui font la même chose avec des bouquins.
Exactement.
C'est-à-dire qu'un bouquin, s'il ne marche pas, on change la couverture et on recommence avec le même livre.
Oui. Alors, je sais pas aussi bien l'un que l'autre. Vous pourriez peut-être nous donner un exemple d'une pochette qui aurait eu d'un disque qui aurait eu plusieurs pochettes avec des petites modifications. André, il est spécialiste, André.
Oui, mais je suis pas la Yanni, moi. Alors de mémoire, là c'est.
Il y a une pochette d'Aragon, je crois.
Oui.
Voilà. La première que tu ouvres.
Voilà. Aragon.
Là, c'est vraiment l'exemple concret. C'est Léo Ferré qui chante Aragon.
Il y a eu trois pochettes.
Il y a eu trois pochettes, tout à fait. Bon, la pochette d'origine qui est à 25 cm. Ensuite, bon, là on peut se poser la question, à savoir est-ce qu'on a refait une pochette parce que le disque était épuisé?
Oui, c'est possible aussi. Oui.
Qu'on a. Je pense plutôt vers cette formule-là.
Oui, là, bon,
ça permet également de réactualiser un peu le personnage, le visage de Léo Ferré.
Oui. Et puis bon, on peut aussi quand même dire, là pour la pochette d'Aragon, on va pas jouer les spécialistes, parce que Mozart n'était pas spécialiste. Dans la pochette, la première version, on voit Ferré, et puis Aragon à ses côtés. Dans la deuxième, on voit Madeleine avec Ferré, et puis dans la troisième, et le chien, et dans la troisième, on voit plus que Léo, et on imagine quand même peut-être pourquoi la...
Oui, il y a des tas de raisons qui font que les pochettes changent, c'est vrai, c'est encore d'autres raisons.
On peut le supposer. Et encore sur la pochette à l'extérieur, bon, ça n'apparaît pas forcément, mais sur les intérieurs de pochette, alors là, il y a des choses flagrantes où on voit carrément des gommages.
Alors, bon, dans ce disque, une mémoire graphique, il y a bien sûr les pochettes qu'on a la joie. Moi, il y en avait des tas que je ne connaissais pas, donc j'en ai découvert énormément en feuilletant votre livre. Donc, il y a du graphisme, mais il y a aussi, évidemment, des textes qui expliquent, qui parlent du contenu des livres, des disques.
C'est-à-dire que, oui, moi, en fait, là, il faut essayer de serrer la chose en deux parties, à savoir que la pochette de 10 actuellement fait l'objet de... C'est un fait sociologique, un fait, à savoir qu'il y a dans des universités des étudiants qui travaillent au niveau qui travaillent sur les pochettes de disques, à savoir qu'elles correspondent à une période bien précise. Bon, c'est une photographie d'une période, à savoir, bon, il y a l'artiste déjà, bon, il y a la façon de représenter, le graphisme des lettres, etc. Tout ça, ça date forcément bien une pochette, ce qui fait qu'on a, avec Léo Ferré, enfin, on a la chance d'avoir 50 ans, quasiment, une évolution sur 50 ans. C'est-à-dire qu'on part du 78 tours pour arriver au CD, quoi. Alors, ce fait-là, bon, moi, je crois qu'il a fallu, même si on n'a pas voulu trop détailler, parce qu'on voulait quand même pas ennuyer le lecteur.
Oui, c'est tout à fait accessible, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du travail universitaire non plus.
Hein. On a, effectivement, marqué les références qui paraît logique. On a marqué le photographe qui a fait la photo ou les photos. On a décrit l'intérieur des pochettes qui ne sont pas représentées évidemment sur le livre. On a même marqué l'imprimeur. Vous voyez qu'on a vraiment apporté le maximum de documents. Bon, et puis lorsqu'on a des petites histoires également sur telle ou telle chanson, bon, on a fait mention également.
Alors bien sûr, les vinyles sont à la fête. Ça commence par les premiers vinyles de 1948. C'est ça, 46, 48.
Oui, Les 78 tours. Quoi.
Voilà, les 78 tours. Ouais. Pour finir sur les CD, qui, là, du coup, bien que Mathieu, dans sa nouvelle édition La mémoire et la mer, nous redonne un peu l'aspect des pochettes d'antan, mais il y a eu toute une période pendant 10-15 ans où les disques de Léo Ferré n'étaient que des empilements de chansons, on respectait même pas le contenu des disques.
Ça, c'est les compilations.
On mélangeait, on gardait même pas la pochette originale.
Non, mais je crois que dans ce livre, on a volontairement exclu toutes les compilations. Bon, on part du principe qu'un disque, ça correspond à un moment donné dans la vie de l'artiste. Une compilation, c'est le bon vouloir de Monsieur X ou de Monsieur Y.
Et là, c'est vraiment du commerce.
Alors, c'est vraiment du commerce, parce qu'en fait, on y met n'importe quoi. Pour ne pas citer, il y a une maison de disques bien connue qui a sorti dernièrement une compilation sur Léo Ferré. Dedans, il n'y a aucun poète qui n'ait chanté. Mm-hmm. Bon, ni Baudelaire, ni Apollinaire, ni rien du tout, en fait. Alors,
c'est une hérésie, hein.
Complètement. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que, en fait, les compilations, c'est... Moi, je...
Oui, non, c'est sûr. Ouais.
Vous avez travaillé comment pour faire ce livre? Vous avez d'abord rassemblé tous les disques que vous aviez, vous, mm-hmm. et puis après...
C'est-à-dire qu'on avait, un intermédiaire. Moi, j'habite le Lot. Jacques Laguenitre habite Paris. Et on avait un intermédiaire qui habite également le Lot, c'est Bernard Legendre, celui qui a fait la maquette en fait de ce livre, et qui lui faisait la navette entre Gourdon et Paris, avec les documents, avec tout ce qu'il nous fallait à chaque fois pour échanger nos informations.
D'accord, d'ailleurs son nom est précisé, Orchestration Graphique.
Oui, tout à fait, on a tenu à ce qu'il soit mentionné, parce que c'est quand même un beau travail, et c'est lui qui a... en grande partie supervisé avec les je sais pas comment ils s'appellent, ces gens qui font qui
travaillent, les maquettistes. Le flashage peut-être.
Avant le flashage.
Ah. Alors on colle.
On ne connaît pas.
C'est-à-dire que la retouche, en fait, si on peut dire, c'est ça, non?
La retouche des photos.
Pinailler, mais ça valait le coup. Hein.
Oui. Ah. Ben justement.
Mais c'était la volonté, en fait. Hein, on ne voulait pas faire un petit truc.
Comme ça.
Non, je voulais dire, justement, pour celui qui aime Léo, mais qui ne connaît pas vraiment tout ce qu'il a fait, parce qu'il y a tellement de choses qu'au départ, les gens ne sont pas forcés de tout connaître. Pour celui qui aime la photo et pour celui qui aime tout ce qui est esthétique et très beau, il faut dire que moi, ce bouquin, je crois que j'ai à peu près tous les bouquins qui racontent Léo, qui parlent de lui avec des photos, etc. Bon, moi, pour moi, ce bouquin, c'est vraiment le plus beau que j'ai eu, quoi. Parce qu'il faut voir, bon, esthétiquement, c'est très bien fait. Toutes les photos sont en couleur et elles sont très très belles. Et
oui,
très
mais je crois que aussi toi tu es très sensibilisé au support. Tu es collectionneur toi-même,
oui.
Donc.
Oui, ça. Mais si tu veux, en même temps, bon, il y a le côté collectionneur, mais il y a aussi le côté de l'artiste et de Léo qui en plus n'avait pas une gueule ordinaire, parce que quand tu te trouvais devant Léo, je vais pas dire de nom, mais bon, c'était quand même un sacré. Il avait quand même une sacrée gueule. Alors ajouter à ça des photos qui sont très très belles. Et qui ont été très très bien utilisés.
Non, mais je crois que de toute façon, Léo avait toujours une série de photographes qu'il a toujours utilisé, avec qui il a vécu en amitié tout le temps. C'est Patrick Ullmann, c'est Hubert Courteclasse, hein, dont Alain Marouani. C'est la base. Bon, j'oublie Geneviève Vanneck, évidemment. Bon, c'est la base, et c'est vrai que ce sont des gens qui l'aimaient beaucoup, et je crois que ça transparaît d'après les photos. Mm-hmm. Toutes les photos d'Hubert Courteclasse, il y a un regard très particulier et qui permet d'identifier, quand on voit une photo, on dit ça c'est Hubert qui l'a fait,
c'est
Groot. Ouais. Mm-hmm. Et une manne, c'est pareil. Il y a un amour qui transparaît, mais je crois que tous les gens qui ont connu Léo Ferré... sont forcément tombés amoureux de lui.
Voilà, et sont arrivés à restituer à travers les clichés les émotions qu'ils avaient au fond du cœur.
Tout à fait.
Alain, on va faire une pause musicale. Je vous ai demandé de choisir un morceau. Je crois que vous avez choisi le morceau qu'il fallait pour ce 21 mars. On l'écoute.
J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver. Pendant que le vulgaire était tout emmouflé, je soufflais sur mes mains à son cul, à son nez. Vlatipak, ses bourgeons sortaient manger le nez. Vlatipak, ses bourgeons sortaient manger le nez. Le printemps, ça s'invente et ça se fout en tôle. Le printemps, c'est ma mine avec ses airs de chien qui vient tout ébahi me montrer tout son bien. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Et oui, c'est ça, monsieur, le printemps des poètes. Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons. Un quart d'été, un quart d'automne et des chansons. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. On va faire des pique-niques du côté des ballots. On va se mettre au vert en croyant aux histoires. Et l'on se sent mourir au bord d'une guitare. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Ce qu'il faut de désir aux heures de l'ennui, et ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses, ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. Jamais ne vient l'avril dans le fond de mon cœur. Cet éternel hiver qui bat comme une caisse, qu'on clouerait sans répit depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs. A décidé.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous écoutons actuellement, donc on le répète, une émission enregistrée qui nous a été prêtée par Divergence FM Radio de Montpellier.
Maryse.
Chez moi à la retrouver, joli môme. Dès qu'une fleur, une petite fleur qu'on guimauve et qui meurt, dès qu'une femme a repassé, quand son âme est froissée, joli môme.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de 24 heures d'émission autour de Léo Ferré.
Et puis, j'ai pas, pendant un an, pour moi, il n'y a plus rien, c'était que le titre, il n'y a plus rien. Tu vois, et puis un jour, je me suis dit, il y a peut-être autre chose sur ce disque, je vais écouter l'autre face, quoi. Et j'ai découvert Préface. Et pour moi, Préface, ça pas remplacé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça restera une marque. Le morceau qui m'a fait découvrir Ferré, un long titre fleuve de l'album. Mais Préface le valait largement. Et puis, il y a une phrase toujours qui m'est revenue, parce que c'était aussi l'époque où j'écrivais des petites choses. Et puis, il y a une phrase dedans qui dit, c'est pas la poésie, c'est pas le mot qui fait la poésie, c'est la poésie
qui illustre
le mot.
Tout à fait.
Et alors, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, c'est rien que cette petite phrase dans cette dans ce titre fait que j'adore ce titre. Ouais, c'est
alors Thierry, on connaît, les auditeurs de Divergence connaissent ton goût pour la chanson française. À mon avis, tu dois beaucoup écouter de chansons françaises à la maison parce que ta fille Élodie, Margot, ouais. Hein, puisque voilà, donc elle est avec nous, elle va nous interpréter Joli Môme, un superbe morceau de Léo, qu'elle va nous reprendre. Tu sais que Préface, ce morceau a été repris sur, je crois que c'est le dernier album de Bernard Lavilliers, de manière excellente aussi.
Bah alors je vais acheter bientôt le
enfin non, mais c'est le dernier qui est sorti il y a quelque temps.
Ouais, mais je ne l'ai pas. Ouais.
Il démarre son album avec Préface.
D'ailleurs, c'était pas sa première reprise en tout cas.
Alors on va écouter Élodie Margot. Élodie Margot qui est avec
Fredo Boss. Donc, grand accordéoniste montpelliérain, dont vous pouvez vous procurer le CD, qui chante régulièrement quelques titres de Léo Ferré, et Yvon Janta, pareil, grand guitariste devant l'éternel, chanteur connu, qui a fait aussi un CD, et qui, donc, ce soir, vont accompagner. Alors, Élodie, alors, je tiens à préciser, ils n'ont pas encore du tout répété. Non, ensemble.
Et tout ça, c'est dans les.
Alors, c'est un petit. Ben, c'est voilà, ça
c'est
va être
dans
super.
Les 8 mètres carrés des studios de Divergence. Voilà. C'est quand vous voulez, Élodie et Yvon et Fredo.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rhume qui est ma boule, jolie môme. T'as ton cœur, ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un bras de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou à fausse la ferme et c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'as qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. Une femme repassée quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille monotone, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. Môme.
Bravo, Élodie, on est. C'est formidable, nous sommes. Conquis. Merci, c'était super, bravo. Cette chanson, de Léo, t'en connais d'autres, Élodie, ou pas?
Paname. Moi, je suis très chanson française, et ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup accroché sur Brel, et j'ai accroché sur plein de chanteurs, et Léo Ferré, enfin. Je connais pas tout le répertoire, mais c'est vrai que j'apprécie.
C'est ton père qui t'a mis dans le biberon du Brel,
oui,
du Ferré.
Dans le biberon, oui, oui, carrément.
Et y a des gens, ça les ferait peut-être partir de l'autre côté. Non, toi, non,
non,
ça...
Non, ça m'attire.
Ça t'attire. Oui. En tout cas, bravo, tu chantes merveilleusement bien. Je crois que le public divergent derrière les vitres du studio partage ce sentiment. Merci encore pour ce joli moment. On va écouter... Voilà, on va écouter, alors je ne sais pas, où Yvon ou Fredo. Fredo Boss nous interprétait un morceau. C'est parti, Fredo. On rapproche le micro. On vous précise que vous pouvez toujours, évidemment, venir nous rejoindre au 24 Boulevard Pasteur. Cette émission est évidemment ouverte à tous, toutes les personnes qui ont envie de fêter avec nous Léo.
Le piano dit pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il est pas chien et il lui rend bien. Il est électrique, sonate ou java, concerto polka, il aime la musique. Le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Et le soleil mauve des lilas de nos gens. Il recoule un bras à ceux qui se plaisent bien et fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin, mais blague, ça recommence. Le piano du pauvre se noue autour des reins. Sa chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il n'est pas chien, toujours il revient. Il a la pratique, et c'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Et quand l'amour se sauve, y a pas de lui qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien. On est tel éclectique. Jules Aubin machin, c'est déjà la fin. Et voilà qu'on pique. Le piano des pauvres, c'est pas qu'il soit voyou. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on n'est pas chien, on a les moyens, on a le cœur qui plisse. Quand pas d'arrêt qui tire de son étui l'instrument de service. Le piano du pauvre n'a pas fini de jacter. Sous son regard fauve, les rupins du quartier. Pendant que les barbus du vieil institut posent leur bicycle, hein, pour entendre au loin, quoi, le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à bobards. Arrête tes bobards. Il se tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon, déjà va perverse. C'est qu'il est pas chien. Et puis, il faut bien faire marcher le commerce. Et puis surtout, on aime la musique.
Fredo Boss, Thierry, on a quelque chose à rajouter alors sur cette interprétation très libre du piano du pauvre par Fredo Boss. C'est que ce matin, Fredo, il n'avait jamais joué ce morceau.
Non, il l'a appris. Quand je suis rentré chez lui, j'ai été le chercher là, à la maison. Il était en train de le travailler.
Fredo, c'est vrai? Non, c'est vrai. Dis-nous tout, Fredo. Allez, voilà, Fredo, dis-nous tout.
Adoré, c'était l'occasion pour moi de le faire ce soir. Merci à tous.
Et tu, dans tes récitals, tu joues du Léo? Ça t'arrive?
Oui, ça m'arrive, mais alors c'est à des moments très tard. Généralement, c'est 4h ou 5h du matin. Et bon, c'est extra. C'est des slow sirupeux. Léo Ferré, dans ce que je fais, moi, je chante beaucoup de chansons populaires pour emballer les gens, pour leur donner le cœur en fête. Et avec Léo Ferré, bon, c'est plus intimiste, c'est de la poésie, tout ça. Donc, on ne peut pas l'envoyer au casse-croûte à travers moi, comme ça, déjà. Et voilà, donc, je le fais avec des gens qui apprécient ce genre de poésie, quoi.
Merci pour cette interprétation. Le troisième larron, c'est Yvon Janta. Yvon Janta, il est guitariste et Yvon, il va nous chanter aussi du Léo. Quel morceau, Yvon ?
L'étrangère.
L'étrangère. Aragon.
Aragon.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bandon s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et des vins doux. On passe la nuit claire à boire, on rime en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, et sans un sou vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la pomme écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, m'a montré la déraison. Elle avait la taille légère et de longues jambes de faon. J'aimais déjà les étrangères lorsque j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, simplement mettais promission. Je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence. Toute musique me séduit, la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Nous avons joué de notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
Encore bravo, Yvon. Merci pour cette interprétation de ce morceau d'Aragon, chanté par Léo. Vous le chantez, vous avez l'habitude de le chanter, Léo. Voilà, mise en musique par Léo.
Enfin, surtout Ferré Aragon et Ferré Cosimon aussi. Ben, pour moi, c'est un des trois piliers de la chanson. Et ma femme me dit toujours que je les aime parce qu'ils sont morts, qu'il n'y a pas de concurrence avec moi. Mais c'est pas vrai. Bon, donc Ferré, Brassens, Brel, bon, par ça, il ouais. Y a le reste.
Moi, en les écoutant tous les trois, donc en se retrouvant comme ça, je me dis quand même, la chanson que tu me parlais des disques que je peux avoir à la maison, qui a pu influencer Élodie, parce qu'elle y a accès, mais tu vois, pour vivre tous les jours des moments avec des musiciens, des gens qui chantent, je serais prêt à donner tous les disques, même les meilleurs disques de collection que j'ai à la maison. Parce que la vraie place de la chanson, c'est comme ça, c'est avec des musiciens, avec des gens autour. Et c'est un moment unique qu'on partage, et le lendemain on passe à autre chose, à d'autres chansons avec d'autres gens, éventuellement avec les mêmes. Il y a quelque chose de particulier à chaque fois qu'une chanson est interprétée. Et c'est ça la vraie place de la chanson. Et n'importe quel disque ne vaudra jamais ce qu'on peut vivre là.
Un moment d'une grande convivialité, quelqu'un qui sait très bien restituer toute l'émotion que l'on peut retrouver dans la chanson, c'est Jacques Higelin. Et Cyril a pris comme initiative et heureuse, c'est de, avant de passer à la partie de la soirée avec Mathieu, Claude et toutes les personnes qui vont participer à cette soirée. On va écouter Higelin qui va nous interpréter Joli Môme. Donc ça c'est pour tout de suite. Et puis après Joli Môme, On sera avec Mathieu Ferré, avec Claude, avec André, avec Cyril et avec toutes les personnes qui ont envie de participer à cette soirée que nous avons intitulée Léo en douce. Et si elle s'appelle Léo en douce, on demandera à Claude pourquoi tout à l'heure. Donc restez à l'écoute, Thierry.
Juste un mot, parce que je demandais à Fredo, qui va reprendre la parole une minute, je lui posais les cinq petites questions qu'on s'est habitué à poser à nos auditeurs. Il a répondu. Alors, je l'ai laissé, il va développer, mais quand on te pose la question, Fredo, qui cherche à rapprocher le micro, donc quand on te pose la question, Léo, une couleur ?
À la couleur, j'ai répondu. J'ai répondu jaune.
Alors, pourquoi ?
Alors, pourquoi ? C'était parce que c'est soleil. Alors, un énorme soleil, jaune, c'est ferré.
Donc,
il a déjà les réponses, alors forcément, il se trompe.
Une chanson ?
Une chanson ?
Une chanson, je l'ai dit.
On l'a pas évoqué, ça.
Non, une chanson, alors si c'est une
voilà,
chanson.
C'est du direct improvisé.
C'est plutôt. C'est extra.
Oui, bien sûr.
Un souvenir de concert, si vous avez des souvenirs de concert ?
Un souvenir des concerts, ben voilà, il m'est arrivé une chose, c'était que j'ai voulu voir Ferré en concert, et puis j'ai assisté à ce concert par hasard, il n'y avait plus de place, et je suis passé en dernier. Et il s'est passé un incident pendant le tour de chant, c'est que Ferré est tombé en panne de son. Alors il n'y avait plus rien du tout. Et en fait, ça s'est passé, il devait rester à peu près une heure de concert, il a chanté pendant une heure, sans micro, sans rien du tout, quoi, a cappella. Et bon, moi j'avais peut-être 14 ans à l'époque. C'est la première fois que je voyais ça. Et ça valait le coup d'y être. Et ça s'était passé à Angers, en Maine-et-Loire. C'était sous un chapiteau, il n'y avait aucun retour de son, aucune réverbération du son ni rien. Et il avait tenu une heure avec une voix pas possible.
En acoustique.
Ah ouais, c'était incroyable de voir ça, la puissance qu'il dégageait avec la voix.
Une phrase ?
Une phrase.
Une phrase, une formule.
ça me vient pas l'idée, je suis un peu... Ah,
tu m'as dit quelque chose.
J'ai dit quelque chose.
Ah ouais.
C'était... Ah oui, ne vote pas. Ne vote pas et te marie pas. Alors pour l'instant, je suis fidèle à ce qu'il a dit. J'ai pas voté une seule fois. Et je suis pas encore marié.
Dernière question, c'était un lieu, donc... Un lieu, pas un concert, un lieu.
Ah oui.
Un lieu.
Fredo Boss a des problèmes.
Pour moi, c'est la Loire. Parce qu'il a chanté la Loire magnifiquement. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est né en bord de Loire, j'étais à même de comprendre ce qu'il disait. Et j'ai toujours pensé que Léo Ferré, en fait, c'était la résurrection. Tu sais, comme les hindous, ils disent qu'on revit de je sais pas quoi. On s'en va, on revient, c'est Claude François, quoi. C'est la philosophie de l'infini. J'ai pensé que ce type, c'était un arbre, vraiment. Une espèce un arbre robuste, forcément, costaud, bien branchu, et qui refaisait ses feuilles sans arrêt. Avec des racines profondes qu'on ne sait pas jusqu'où elles s'enfoncent. Et pareil, vers le ciel, quoi, ces capteurs par milliers qui viennent... Bien sûr, nous a imprégné de la poésie qu'elle a su interpeller et capter. Et sans doute, lui, il était habité, forcément. Est-ce qu'on dit habité ? C'est habité. Lui, il était habité. Il y a des moments, il n'était plus tout à fait lui-même. Il paraissait complètement barjot, ce type-là. Parce que quand on avait... Moi, j'étais à l'époque des yéyés et tout le bazar. On voyait Léo Ferré sur la scène. C'était rare, hein, à la télé. Parce qu'à la télé, c'était quand même... L'instrument, c'est on est une génération de télé. Léo Ferré à la télé, c'est peut-être peu de choses finalement. Mais il est peut-être pas passé souvent, mais les fois où il passait, mais qu'est-ce que c'est que ce malade ? Tu te rappelles pas qu'il avait ce tic de sans arrêt cligner des yeux, tout ça ? Alors ça fait pas net, on dit mais il est pas bien, il est tracassé ce type-là, et tout ça. Et puis on sait pas pourquoi, même les gamins, moi j'avais des frangins, les cousins, tout le bazar. Léo Ferré, ma tante surtout. J'avais une tante, elle était bien gironde et tout. Toujours bien habillée. Elle avait une panhard verte, vert comme... vert pâle. Elle se garait dans le quartier et ça faisait un tabac, parce que tout le monde savait que la tante était là. Et ma tante, elle était folle de Léo Ferré. Elle lui trouvait du charme. Quand j'ai su ça, je dis, c'est pas vrai. Alors je regardais Léo Ferré, je regardais comment il faisait, tout ça. Mais bon, il avait du charme. Ah, c'est sûr, mais difficile à croire, hein. Et pourtant, le charme qu'il avait, il était au-delà de sa face. Il n'était pas spécialement beau, hein, c'est pas Alain Delon dans plein soleil. Mais il avait une beauté qui avait touché ma tante. C'est peu de choses, hein, mais pour moi c'est beaucoup. Et justement, son morceau à cette époque-là, bah, c'était l'année où était sorti, je crois, le tube C'est Extra. Mm-hmm. Et il jouait avec les maudits...
Les zoos. Et là, les maudits blues.
Les maudits blues qui l'accompagnaient. Hein?
Les zoos.
Ou les zoos, les zoos. Bon, bah, s'il y a des auditeurs qui s'en rappellent, ils ont qu'à appeler la radio. Hein.
Des auditeurs.
Les zoos, oui, les zoos. Et bon, bah, c'était un morceau terrible, parce qu'il était monté premier au Hit Parade, comme on appelait ça à l'époque, avec ce titre. On se demandait d'où il venait, d'une autre planète. En fait, je ne sais pas si ça lui a rapporté beaucoup d'argent, est-ce que ça lui a fait de chanter ça. Mais bon, peut-être à cette époque-là, il se sentait un peu le Gainsbourg revenu de chez les Rastas, avec une petite sauce à la mode. Histoire de nourrir un peu son business, parce que faut pas rêver, il a certainement dû galérer, ce type-là. Je comprends. Hein.
C'est marrant parce que ça me fait penser à Hubert Vilsefen qui disait « Je sais pas si j'aime la chanson, mais j'adore Léo, parce que Léo, c'est certainement pas de la chanson, c'est autre chose, c'est ailleurs. » Ça illustre un petit peu.
les propos de Fredo. Cyril, peut-être non. On est parti donc tout de suite avec Joli Môme. Merci donc Elodie, Fredo et Yvon pour ces trois interprétations et pour vos mots et ce que vous nous avez apporté en direct.
Si, juste un truc, Jacques Higelin, donc qui a su dépuceler une Jolie Môme en funk.
Dès qu'une fleur, petite fleur qu'on guimauve et qui meurt dès qu'une femme a repassé, quand son âme est froissée, jolie môme. Dès qu'une feuille de l'automne qu'on effleure monotone, dès qu'une joie en allait, viens chez moi la trouver, jolie môme.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de 24 heures d'émission autour de Léo Ferré. C'est une production de la radio Divergence RFM de Montpellier, une émission qui est passée le printemps dernier. C'est un partenariat donc entre Divergence FM et Radio Libertaire, 24 heures de Léo Ferré. Il y en a donc jusqu'à demain matin, 9 heures.
Mécanique, prends tes claques et tes cliques. Les roses peuvent faner dans le cœur électronique. Ça papa comme la musique qui battait dans le sablier. Mozart pour faire ses trilles n'avait ni stylo à bille, ni plume sergent-major. Quand il voulait une plume, il plumait dans le costume d'une oie qui passait dehors. Vive les temps atomiques, brûle tes vieilles reliques. Le soleil peut s'en aller, tous les chagrins qu'on empile se mettront dans une pile pour chauffer tout mon quartier. L'écrivain nommé Voltaire n'avait pas de frigidaire ni même d'électricité. Quand il voulait de la glace, il attendait qu'hiver passe avec son cheval glacé. Les temps fantastiques, prends la route astronomique sans jamais te retourner. Si la fin gêne ta course,
arrête au resto Grand Ours, qui est ouvert toute l'année. Fini le vagabondage, la mer s'est mise en chômage, les bateaux peuvent flâner pour aller en Amérique. Prends l'oiseau mélancolique qui ne chantera jamais. Viennent les temps chimériques et l'automne mécanique avec ses cheveux défaits. Je ne connais qu'un royaume, c'est celui de mes fantômes qui ne parleront jamais. Si ma voix micro-sillonne cette chanson monotone, c'est qu'elle est emprisonnée. Ouvre-lui vite ta porte et que le diable remporte ma chanson mécanisée.
Fatine et Marianne de Jinko Biloba.
Ben, Léo Ferré, pour moi, c'est... Déjà, il me laisse sans voix, et je sais, quand je pense à Léo Ferré, c'est une tristesse, en même temps, quelqu'un d'engagé, des textes poignants, et c'est... moi, je pense, là, tout de suite, il y a un titre qui me vient, c'est La vie d'artiste, et je sais que la première fois que je l'ai entendu, je suis restée sur une chaise, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rigoler, et voilà, Léo Ferré, enfin, je sais pas, j'ai pas de mots, quoi, mais c'est quelqu'un que j'admire, vraiment.
Voilà. Ce que j'admire, c'est que c'est quelqu'un qui assume sa folie. Et il a bien de la chance.
Bonjour mesdemoiselles. Qu'est-ce que ça vous évoque, Léo Ferré? Ça vous évoque quelque chose?
Le chanteur.
Et qu'est-ce que ça représente, mettons, pour votre génération, quel âge vous avez?
20 ans. Oui, pareil, 20 ans aussi.
Et qu'est-ce que ça évoque, Léo Ferré, quand vous pensez au chanteur?
Pour moi, rien.
Rien.
Je sais pas, ouais, un grand chanteur quand même qui a marqué, qui a marqué nos parents, ouais, sûrement. Ils ont tous dans la tête ces chansons, quoi, mais nous, on n'a pas...
Quelqu'un d'un peu dépassé, quand même.
Non, je pense pas. Non, je pense que si on se donne la peine d'écouter, ça doit valoir la peine de s'y remettre, quoi, afin de ressortir les vieux disques, etc.
Et est-ce que vous croyez qu'il a influencé, mettons, des jeunes qui font du rap, etc., par des chansons engagées?
Je saurais pas vous dire. Faudrait que moi-même je sache s'il y a des paroles engagées, mais pourquoi pas? Enfin, je trouverais pas ça absurde.
La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert. Parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. y'avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait, bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait. Ça pleuvait comme à Ostend et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre. On est allé bras dessus dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présence féminine qu'on se fait payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans des pluies. Que tous les gars de la bande se sont perdus, se sont perdus comme à Ostend et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on demande si c'est utile et puis